France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On renverse un grand pot de crème fraîche dans une jatte. Et on regarde la consistance de la crème, ça c'est important.
La crème, pour moi, c'est primordial. J'ai banni tout ce qui était crème UHT. Je travaille qu'avec des crèmes fleurettes. Vous ouvrez le pot de crème, vous êtes déjà dans les vaches. Presque une odeur oubliée quelque part.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec de la crème chantilly?
Des gâteaux à la crème chantilly.
Avec du glace, on peut mettre sur des fraises.
Et la manger nature. La manger nature.
Avec du chocolat.
Et aussi avec de la crème de marron. Et bien je vous laisse à votre crème chantilly. Au revoir.
Donnerai la crème fraîche avec mon chou-fard.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster liquide ou épaisse, cru ou pasteurisé, d'Isigny ou de Bresse, fermière ou industrielle, on plonge dans la crème fraîche avec notre spécialiste des fromages et des produits laitiers, c'est Pierre Coulon, bonjour.
Bonjour.
Même si on va voir ensemble, cher Pierre, que l'appellation crème fraîche qu'on utilise un peu de manière générique dans le langage courant est beaucoup plus restrictive hein, dans le monde des produits laitiers. Vous avez fondé, on le rappelle, la laiterie de Paris dans le quartier de la Goutte d'Or. Vous êtes crémier, fromager et même formateur. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre important sur le fromage, Le bon savoir du fromage chez First Edition. On va comprendre avec vous le monde de la crème, comment elle se fabrique, comment elle se cuisine, comment elle se choisit à la crèmerie mais aussi au supermarché. Et comme à votre habitude, vous êtes allé faire un tour dans les rayons frais des supermarchés et bon, on va voir que c'est pas toujours... La crème de la crème, c'est le moins que l'on puisse dire. Il m'accompagne tout au long de l'émission, notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Zazie, vous nous emmenez dans une ferme normande qui produit de la crème biologique.
Oui, je suis allée à la source de la crème, donc de la crème crue, mais aussi vous allez voir un peu de la crème pasteurisée.
On va voir ça et on va tenter de faire évidemment la différence. Notre invité Pierre Coulon va tout nous expliquer. Antoine, on part avec vous du côté du Beaujolais. Je ne trahis pas de secret.
Ben oui, la crème fleurette, ça m'a inspiré. Y aurait-il un des 10 crus du Beaujolais qui porterait presque le même nom?
Ah, pas mal. Ah oui, intéressant. J'avais pas fait le lien. Très bien. Oui, ben on se met à y réfléchir. On a la réponse dans le courant de cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de réactions sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais on va déguster également en ligne pour tous les contenus de l'émission et les recettes crémées signées Pierre Coulon, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans la crème, j'aimerais vous faire revivre la deuxième édition, ça c'est la déformation professionnelle, de Bon Esprit de Clocher, un nouveau festival qui se déroulait le week-end de la Pentecôte dans l'Aveyron. Un événement à taille humaine, fondé par le journaliste Alexandre Camas, qu'on connaît bien pour avoir fondé Il y a le Fooding, et qui marie désormais chaque année au moment du week-end de la Pentecôte dans son village de Casouéjouls, musique, bon vivre et gastronomie. Casouéjouls, imaginez quand même un charmant village de 40 âmes, sur le plateau de l'Aubrac, à 10 minutes en voiture de l'Aïeul. L'Aïeul, tiens, patrie d'un exceptionnel fromage AOP, dont on reparlera bientôt, Pierre Coulon.
Avec plaisir.
Petite plongée gastro-musicale dans Bon Esprit de Clocher avec son fondateur-organisateur, Alexandre Camas.
En fait, l'esprit de clocher, c'est à la fois aimer sa famille, ses voisins, ses amis, son village, son territoire. Et puis, ça peut être un peu réducteur, il y a un côté un peu recroquevillé. En rajoutant « bonne » devant esprit de clocher, ça devient « bon esprit de clocher ». Ça veut dire qu'on aime l'endroit d'où on vient, mais que ça ne nous empêche pas d'aller vers les autres et de les accueillir aussi, et d'être curieux. Et donc, du coup, bah, la programmation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des produits ultra locaux, on valorise le patrimoine avec des chefs locaux. Il y a un four du XVIIe siècle dans lequel ce soir, Matthew Robertson, chef américain, et Alice Newson, chef anglaise, vont cuisiner des meatballs de veau de la Maison Conquet et aussi du gratin macaroni and cheese avec du laïol AOP. Giovanni Passerini, Nicolas Carmaros pour les vins, etc. Ben ils sont là tout le temps et ils reviennent chaque année. Dans l'église, hier soir, il y avait un concert de Bertrand Belin.
Et bon esprit. l'esprit de clocher aujourd'hui, c'est aussi des déjeuners un peu spéciaux chez l'habitant.
Oui, en fait, l'idée, c'est que comme on est quand même en montagne, à 1000 mètres d'altitude, et que le temps peut varier, je m'étais dit, je veux bien me prendre un stress sur le dîner avec un extérieur, mais je voulais pas prendre de stress le déjeuner du dimanche. Donc en fait, on reçoit 300 personnes dans le village, dans 10 maisons différentes chez l'habitant, et avec des chefs qui cuisinent directement chez l'habitant, dans la maison des gens. Donc les gens arrivent dans le village, ils ont payé à l'aveugle un billet, et on leur file un plan, et on leur dit, vous mangez chez Michel, vous mangez chez Claudine, et ils arrivent là, et là, ils découvrent le chef qui cuisine pour eux. Donc il y a aussi bien Michel Brass que Quentin Bourdi.
Alors, Monsieur Brass, c'est de la volaille. Vous allez acheter le vin chez Colette.
On va acheter le vin. Et
parfait.
C'est bon pour vous ?
Très bien, merci.
Le petit chemin, juste à gauche.
Mariana.
Gloria.
Olivia.
Regardez ce qu'il y a devant vous.
Pâté croûte.
Un petit pâté croûte qui a pris le train et qui a été fini ici. On a coulé la gelée hier soir.
Il est beau, hein.
Il est pas mal, hein.
Et la farce est composée de quoi ?
Foie gras, cochon, foie de volaille, estragon.
Il va en rester ?
Ouais, on nous a dit les Aveyronnais ont faim. On a prévu, normalement, ils devront en rester.
Bon, on viendra pour les restes, alors.
Ouais.
Mariana, Gloria, Olivia, vous connaissez Zazie Tavitian, ce super trio de femmes chefs ?
Bah oui, c'est pas très loin de chez moi, déjà. Et elles ont une cuisine hyper fraîche, hyper inventive, qui change quasiment tous les midis, avec un entrée plat dessert, je crois, au prix imbattable, 16 €, il me semble.
Exactement, 16 € chez Paloma, ce bistrot de femmes chefs, un formidable bistrot de Belleville à Paris. Et Mariana, Gloria et Olivia ont mis le feu dans la maison d'Alexandre Camas, en plein village de Casuéjouls, où elles ont dressé le couvert pour 18 invités surprise. Bon esprit de clocher, ce sont donc de savoureuses expériences musicales et culinaires à l'échelle d'un village tout mignon de l'Aveyron. Rendez-vous au printemps prochain, ça continue pour la 3e édition, Pentecôte 2024, les 17, 18 et 19 mai prochain, pour une nouvelle édition de Bon Esprit de Clocher. Derrière la vitre de la régie pour mitonner et crémer cette émission en direct, Laurent Thomas, Laurent Baudouin, Fabrice Rivaud, la crème au menu dont on va déguster juste après Pomme, avec le titre 1 million choisi par Djoubaka sur la playlist de France Inter. Bon appétit mes amis.
Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurer c'est sale, ça fait des yeux plus gros que la ville. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes, combien de fois pour avoir l'air normal.
crème. On appelle ainsi l'espèce de peau qui s'élève sur le lait avant ou après son ébullition. Elle est composée de sérum, d'un peu de fromage et de beurre à l'état d'émulsion. On ne s'en sert guère comme aliment à cause de la grande quantité de beurre qu'elle contient et qui pèserait sur l'estomac et donnerait lieu à des nausées et même des vomissements. Waouh, bon appétit. Voici une définition assez peu ragoûtante, signée quand même Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine, hein, qui est pour nous un ouvrage de référence. On va régulièrement piocher des informations. Dictionnaire qui date de la fin du 19e, hein, 1873. En gros, Pierre Coulon, la crème est très mal considérée, alors qu'on la pensait quand même assez indissociable d'une certaine cuisine française. Et on apprend là que la crème, dans sa version primitive, bah, c'est en fait la matière qu'on récupérait à la surface du lait.
Oui, tout simplement parce que la matière grasse, comme elle est plus légère que l'eau, remontait à la surface. Donc, dans toutes les régions où on élevait des vaches, donc notamment Bretagne, Normandie, Bourgogne, on laissait le soir le lait au cellier, et le matin, quand on arrivait, il y avait une petite couche, bah, une belle couche même de crème qui était à la surface.
Dont on s'est ensuite servi pour faire la cuisine.
Non, c'est servi pour faire la cuisine, cuisine paysanne, hein, parce que la crème va arriver un peu plus tard. C'est sûrement pour ça aussi que Dumas la casse un peu, cette crème dans cette gastronomie. Parce que finalement, il faut vraiment attendre le 19e pour que la crème s'industrialise avec l'invention de l'écrémeuse. Donc c'est une machine qui va nous permettre de sortir plus de crème du lait et qui va lancer très clairement les différentes crèmes.
Et là, on est dans l'histoire du fromage en Normandie, normand, viking,
alors,
influence.
Oui. Depuis toujours, les Normands trafiquent de la crème et du beurre avec les Vikings notamment. Alors beurre qui sera doux chez les Normands et salé chez les Bretons. Les Bretons faisaient aussi plus de crème, hein, donc salé le beurre et surtout ils payaient pas la gabelle. Donc c'est pour ça que le beurre était salé. Et ensuite, on avait les Normands qui écrémaient toujours un peu le lait dans leur fabrication de fromage. Même moi aujourd'hui, quand je fabrique du camembert, il y a 25% du lait qui est écrémé dans le fromage. En opposition, on avait les Bourguignons. Alors c'était les deux zones d'embouche, hein, qui fournissaient la viande à Paris, donc qui étaient en concurrence, qui eux faisaient des fromages au lait gras, au lait entier, comme le chat ours notamment.
L'invention de l'écrémeuse au 19e siècle, c'est ce qui a permis d'accélérer le processus et de quasiment lancer la crème sur la voie de l'industrialisation. C'est-à-dire c'était cette façon d'automatiser en quelque sorte la levée de crème sur le lait.
Oui, et puis alors c'est pas innocent que ça vienne d'Allemagne, l'écrémeuse, hein, parce que nous aujourd'hui, les Français, on mange environ 4 kilos de crème par an et par habitant.
C'est pas mal.
C'est pas mal. On est cinquième, hein, parce que alors les
Mais
Suédois
alors,
et les Danois.
J'étais assez étonné, je pensais qu'on était carrément les premiers en Europe, voire au monde.
Oui, moi aussi, j'étais très étonné à la lecture des résultats. Et après, on va aussi avoir les Allemands, les Autrichiens, les Finlandais qui sont entre 7 et 8 kilos, donc le double de nous, alors que j'ai l'impression que la crème, on en met partout.
On comprendra qu'on est plutôt au nord de l'Europe, assez logiquement.
Oui, quand même, clairement. Ouais. C'est vrai que la crème va disparaître un peu avec le sud, notamment les crèmes fermentaires.
Et même en termes de production, si, à l'étranger tout du moins, la France est réputée pour ses productions de crème, même industrielles, qu'on considère aux États-Unis ou en Angleterre comme de relativement bonne qualité, on n'est pas les premiers en termes de production.
Alors, on est les troisièmes producteurs, par contre, on sera les premiers producteurs de crème fermentaire, parce qu'on va voir un peu plus tard que nous, on acidifie avec des bactéries et non pas avec un acidifiant.
Et oui, on va voir que le monde de la crème est très très vaste, on va essayer d'en comprendre avec vous les nuances. Commençons par une définition simple sur le plan de la loi.
Oui,
de la crème.
Le décret fromage. Hein. La crème, c'est un lait qui contient 300 grammes de matière grasse pour 100. Un litre de lait. Donc 30% de matière grasse, là où un litre de lait en contient 3,8. Donc c'est un lait qui est concentré en matière grasse. Ça, c'est la définition légale.
Et évidemment, la crème, précisons-le quand même, est forcément d'origine animale. Hein.
Oui, la crème est d'origine animale, de toute façon.
Ce qui, une crème de soja, par exemple, on peut pas l'appeler.
Soja, crème d'amande n'existe pas en France sous ce nom-là, non.
Alors, on va mieux comprendre la réalité actuelle de la crème en France, et notamment en Normandie, avec Zazie Tavitian, qui a vraiment joué le rôle de reportrice aujourd'hui. Vous êtes allé prendre le pouls sur le terrain, de préférence en Normandie, on va voir que vous vous êtes frotté, bah, à la crème de la crème.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie a la source de la crème, pas très très loin de Paris.
Et oui, et de la crème fraîche crue même. Et qui dit crème fraîche, vous l'avez dit Normandie. Moi, c'est mes premiers souvenirs de crème fraîche. D'ailleurs, c'était au marché de Granville où j'allais enfant avec ma grand-mère.
Ah, du Cotentin.
Voilà, et c'est une crème que j'adorais parce qu'elle était plus épaisse, elle était plus jaune que celle qu'on achetait le reste de l'année au supermarché en banlieue parisienne. Mais pour ce reportage, je ne suis pas allée à Granville dans la Manche, mais à Bréauté, donc plus au nord, en Seine-Maritime, à 30 km du Havre. J'y ai rencontré Aldric van der Merch. Alors Aldric, il a monté sa ferme Brin d'Herbe en 2009. Lui, il est né dans le coin. Ses parents étaient agriculteurs, mais c'est une exploitation qu'il a repris hors cadre familial. La ferme était déjà en culture raisonnée, il l'a passée en bio. Et sur son exploitation, Aldric, il élève des vaches, il transforme leur lait, il cultive aussi des plantes pour des tisanes.
Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés en gare de Brottë-Besville. Brottë-Besville, 8 minutes d'arrêt.
Alors nous sommes tout de suite allés voir les vaches qui pâturaient au champ. Il y avait un peu de vent comme vous pouvez l'entendre. Il y a une vache qui se promène là.
Le but c'est qu'il y ait un maximum de pâturage. Du coup ils ont libre accès et en fonction de comment elles consomment dans les herbages, et ben, éventuellement on fait un petit complément au bâtiment. Mais voilà, le but du système c'est vraiment de faire un maximum de pâturage. Et du coup on a implanté des prairies multi-espèces où on a des graminées, du trèfle, donc qui permettent d'équilibrer une ration et d'avoir le lait qui est de la meilleure qualité de l'année. Quoi, parce que de toute façon quand les vaches sont en plein pâturage, ben voilà, c'est le lait qu'il faut consommer. Alors, bizarrement, c'est aussi là où les gens consomment moins de produits laitiers. Mais bon, voilà, on essaye de s'adapter.
Là, on les voit, elles regardent les voitures qui passent.
Oui, les voitures qui passent, et puis les haies qui poussent aussi, puisqu'on a replanté des haies un peu partout autour des parcelles pour justement créer de l'ombre, de la biodiversité, et puis à terme, un peu de biomasse énergie par le bois, quoi.
Et on sait qu'en Normandie, il y a pas mal aussi de gros groupes. Vous, dès le départ, vous savez que ce n'était pas le modèle pour lequel vous vouliez travailler ?
Alors non, moi j'aime bien l'élevage, mais l'élevage à taille humaine, parce que les discours des coopératives, etc., c'est vous avez 100 vaches, il faut passer à 300 vaches, mais il faut forcément les moyens humains en face, et du coup, de toute façon, c'est compliqué. Et puis, c'est en corrélation avec la surface que j'ai disponible au pied du corps de ferme pour pâturer. Donc en fait, si j'avais 300 vaches, il faudrait que j'aille chercher de la nourriture ailleurs pour alimenter les animaux au bâtiment. Enfin voilà, ça perd son sens, quoi.
Je vous ai appelé pour vous dire, je vais faire un sujet sur la crème fraîche crue, donc j'ai envie de voir comment ça se passe, etc. Vous m'avez dit, oui, la crème fraîche crue, on en fait surtout pour les Parisiens.
Oui, c'est ça. Bon, après moi je m'adapte, c'est pas le souci. Après nous, chez nous, en fait, on la pasteurise, mais en fait on fait une pasteurisation douce, hein. C'est pas du UHT, quoi. Et ce qui nous permet d'avoir des DLC un peu plus longues, et en général, les gens préfèrent avoir des DLC un peu plus longues, quoi.
Et vous, vous préférez quoi ?
Alors, objectivement, entre ma crème pasteurisée et ma crème crue, moi, je sens pas de différence.
Il faudra faire un test, alors.
Voilà, c'est ça.
Alors, on a fait le test entre pasteurisé et cru. Effectivement, il n'y a pas une
Antoine Gerbel, vous aussi, vous étiez carrément cuillère au pot en train de faire la différence ou essayer de la faire, parce que c'était nu. Hein.
C'était nu, mais quand même, moi, je dirais que la pasteurisée, elle est plus grand public, elle est plus accessible, il y a un petit peu moins d'acidité. La crue, elle a ce petit... elle est plus présente en bouche, mais voilà, j'imagine que les gens habitués à la douceur, au sucre, au sel, dans l'aliment quotidien, la pasteurisée, elle est quand même, elle est totalement dans la cible, je trouve.
Pierre Coulon, on a beaucoup de questions sur notre mail. La différence entre la crème crue et la crème pasteurisée, c'est finalement un peu comme le lait cru et le lait pasteurisé, c'est une histoire de traitement thermique.
Totalement. La crème crue, en fait, c'est avec un lait qui n'a pas été chauffé. Donc du coup, on va avoir les ferments plus les bactéries naturelles du lait. Donc ça, c'est une crème qui est louable parce qu'elle demande peu d'énergie et elle aura plus de complexité aromatique parce qu'on aura quand même beaucoup plus de monde dedans.
Et accessoirement, plus de bonnes bactéries pour notre microbiote.
Totalement. Alors après, dès qu'on pasteurise ou qu'on stérilise, donc pasteurisé entre 72 et 99 degrés, stérilisé plus de 100 degrés, donc là on va quand même commencer à bien dégrader les matières grasses.
Donc on matraque thermiquement.
Thermiquement pour tuer toutes les bactéries présentes et mettre des bactéries de culture. Et donc, si on la fait acidifier, ce sera une crème fraîche. Une crème fraîche est une crème qui est pasteurisée et acidifiée. Et après, si la crème elle est liquide, c'est qu'elle aura été stérilisée. Si elle est pasteurisée, elle sera fleurette. Donc derrière ces trois appellations, c'est le fait qu'elles aient été ensemencées ou pas, donc acidifiées, crème fraîche, épaisse. En fait, je vous entendais tout à l'heure, Zadie, dire crème fraîche crue. Crème fraîche crue, ça n'existe pas dans la loi. On parle de crème crue ou de crème fraîche épaisse. Et après, la fleurette, quand c'est pasteurisé, ça se garde 10 jours au frigo. Et après, la liquide, c'est celle qui est stérilisée en petites briques qui se garde pendant très longtemps. Mais alors, il n'y a pas que de la crème dans les bidons.
Quand on dit stérilisée, c'est la fameuse crème UHT qui n'a même pas besoin d'être dans les rayons frais des supermarchés.
Elle reste 6 mois à température ambiante et on doit la consommer 3 jours
après ouverture.
Parce qu'elle a été traitée à plus de 100 degrés.
140 degrés, c'est des flashs pendant 2-3 secondes. Ouais.
Et donc là, on peut raisonnablement plus parler de produits vivants.
Ah non, bah là, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Hein. C'est des crèmes d'ailleurs qui même sont assez dangereuses. Hein. Il faut vraiment respecter les délais de consommation parce que ça se contamine très 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 vite.
On va continuer à reparler de tout ça parce que le monde de la crème est complexe. La différence entre liquide, fleurette, etc. On poursuit avec vous, Zazie.
Bon, elles ont au moins un point commun, ces crèmes, c'est qu'elles proviennent a priori des vaches et il faut donc de la traite de ces vaches. Donc nous sommes allés avec Fanny qui travaille aussi sur la ferme chercher les vaches ensemble. Enfin, c'est surtout elle qui s'en est occupée car en bonne parisienne, vous allez l'entendre, j'étais pas très crédible niveau équipement.
Oui, non, chez nous, des baskets, c'est pas adéquat hein, dans une ferme, madame.
Vous allez me prêter des bottes?
Ah ben moi, j'en ai pas d'autres. Hey.
Et vous, Fanny, du coup, vous travaillez ici matin et soir en coupure pour la traite?
Voilà. Mon vrai métier d'origine, c'est esthéticienne et je me suis reconvertie pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. Et je suis bien avec mes vaches.
Ah, vous aimez les vaches?
Ah oui, tout. J'aime les vaches, les tracteurs, les cultures, tout ce qui est dans une ferme.
Là, on marche ensemble jusqu'au bout du champ, donc vous allez...
à la dernière vache.
Et à la dernière vache, vous allez les rassembler.
Oh ben, généralement, vous marchez derrière la dernière et puis ils savent bien, quoi.
Elles sont sages, elles sont obéissantes.
Oui, et chez nous, le troupeau est assez calme. Hein. On est en Montbéliard des Normandes, donc c'est pas des races très nerveuses. C'est des vaches quand même reconnues pour leur qualité laitière et notamment bouchère aussi. Donc c'est vrai que la qualité du lait est quand même supérieure par rapport à d'autres races.
Comment on reconnaît une Normande d'une Montbéliarde alors?
La Normande, c'est souvent de trois couleurs et c'est bringé, typé celle-ci, donc du blanc, du marron et du noir. Comme là-bas, celle qui se relève là-bas.
C'est un peu plus taché.
Exactement. Et les Montbéliardes, elles sont marron. Moi, je dis caramel beurre salé, que je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que j'adore ça, mais bon. Ça me fait penser à ça, leur couleur avec du blanc. Et en haut. Et bouge. Et en haut, Thierry. Là, en ce moment, on en a 50, pas une de plus, pas une de moins. On a une moyenne de troupeaux à, on va dire, 23 à 24 kilos de lait par jour.
Donc, on peut dire qu'une vache a fait à peu près 2,5 litres de crème fraîche par jour.
Voilà. Donc, on peut en manger de la crème. Et en haut.
Là, vous avez fait entrer toutes les vaches dans la salle de traite.
Exactement.
Et elles attendent patiemment d'être traites.
Ils m'attendent. Ils savent très bien qu'une fois la machine va être en route, c'est parti pour un tour.
Alors, la traite dure 1h, 1h30. Et ensuite, pour faire de la crème crue, c'est Marine qui travaille sur la ferme depuis 7 ans, et notamment à la production, qui nous l'explique.
Alors, sur le laboratoire, du coup, on y travaille tous les matins. Et l'idée, c'est vraiment de venir confectionner les produits qui sont fabriqués à base du lait de nos vaches. Donc, on travaille avec le lait du jour. La crème crue, en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus simple. On récupère le lait de la traite du matin, des vaches. Donc, on ne le refroidit pas. On le garde à 37 degrés. On le passe au niveau de l'écrémeuse. Et en fait, l'écrémeuse, qu'est-ce que c'est? C'est une centrifugeuse qui permet de séparer les matières grasses du lait écrémé et qui nous permet de nous donner de la crème. Une fois qu'on a écrémé et qu'on a récupéré du coup cette matière grasse, on vient l'ensemencer en ferment. On la laisse donc à l'étuve, c'est une pièce chaude en fait qui est réglée à 26-28 degrés, qui permet au ferment de s'activer et de transformer cette crème, de lui donner vraiment cette texture de crème épaisse, et ensuite un refroidissement. Il n'y a pas plus simple que ça pour la crème. Grosso modo, entre le moment où on fabrique la crème et le moment où on soit conditionne la crème, soit on la transforme en beurre, puisqu'on a d'abord l'étape de la crème pour pouvoir faire du beurre, il se passe à peu près 24 heures.
Est-ce que quand on est ici, qu'on travaille ici, on a le droit de manger de la crème de façon illimitée?
On peut, mais quand on arrive en été, on se calme. Hop, on va goûter, allons-y. Donc tu vois, on est quand même sur un jaune assez, assez prononcé, et donc on est sur une vraie crème épaisse, quoi. Là, pour le coup, et on a un vrai jaune, enfin, si tu compares à la couleur du pot qui est blanc, là, pour le coup, on se trompe pas, quoi.
Est-ce que vous avez une recette à la crème crue que vous aimez particulièrement ?
Ouais, je dirais peut-être le poulet crème avec des champignons et des pâtes. Ouais, ça c'est peut-être un peu mon péché mignon, j'avoue.
Le poulet à la crème, moi aussi, c'est mon péché mignon.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et Pierre aussi, non?
Non, je suis un peu écœuré de poulet à la crème en ce moment. Mais alors, c'est quelque chose qu'on croise partout, effectivement, de faire cuire une volaille avec souvent un alcool, du cidre ou du vin, et de noyer ça dans la crème. Alors, pour moi, il y a le poulet briard qui est fait avec du cidre. Il y a le poulet Valais d'Auge qui est aussi avec une base de cidre. Il y a la géline lechoise avec un genre de sauvignon. Il y a celui du Jura et celui de la Bresse aussi, notamment.
Et bien sûr, parce que la Bresse, c'est le pays d'une très belle volaille de Bresse, mais également d'une belle crème à OP de Bresse. Et il y a la recette notamment en ligne que l'on vous a mise pour vous, chers auditeurs et auditrices, c'est le poulet à la crème de la Mer Blanc avec son petit trait de citron final pour apporter un petit kick d'acidité.
Et vous pourrez utiliser la crème crue de brin d'herbe que vous vendez, je crois, Pierre,
c'est nos producteurs de lait qui nous envoient le lait qu'on fabrique, avec lesquels on fabrique nos produits à Paris. C'est une super ferme.
Oui, mais Aldric me racontait qu'il cherchait maintenant un repreneur pour la partie transformation. Mmh. Alors, c'est pas encore fait. Et lui gardera son troupeau et continuera à faire du lait. Mais c'est vraiment, la transformation, ça lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc lui, il aimerait vraiment trouver un jeune couple, par exemple, qui partage ses valeurs et qui reprendrait la fabrication avec son lait. Donc je fais un petit appel aux amatrices et amateurs.
Une bonne annonce pour aller travailler dans une ferme d'exception brin d'herbe.
Voilà. Et en attendant, vous pouvez goûter les produits donc chez vous, Pierre, et puis à d'autres endroits. Toutes les infos sont sur leur site et sur le site de France Inter.
Et ils sont à Bréauté, au nord, dans la Seine-Maritime, hein,
c'est ça.
Et on a parlé de Granville dans le Cotentin. Je me suis fait un peu charrier par nos auditeurs, par mail. Bon, Granville, on va dire qu'on est dans la Manche, mais aux portes du Cotentin.
Sud.
On peut raisonnablement le dire. Vous évoquiez la saison dans votre reportage, Zazie Tavitian, la saisonnalité de la crème fraîche, là vous avez des chiffres intéressants parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, au beau jour, en France, on consomme aussi de la crème, Pierre.
Alors il y a un pic de consommation de crème sur avril-mai avec l'arrivée des fraises, tout simplement. Et alors c'est le pic aussi des crèmes aérosols, des crèmes en bombe, là, chantilly ou crème fouettée, quoi.
Alors chantilly, crème fouettée, s'il vous plaît, différence, définition de la chantilly.
Alors ce qui est drôle, c'est que moi en cours de cuisine, on m'a toujours appris que dans la chantilly et la vanille, dans le décret, en fait, c'est juste crème et sucre. On parle pas spécialement de vanille. Crème fouettée, on n'est pas obligé de la sucrer.
C'est ça. Donc la crème fouettée, ça part comme une chantilly. Oui. Sauf qu'elle n'est, donc elle est foisonnée, elle est aérée. Alors, on intègre de l'air dans cette matière grasse pour la faire mousser, la faire grossir, lui faire prendre du volume.
Et c'est vrai qu'on sucre un peu parce que comme on dégrade un peu le lactose, elle va avoir une sucrosité naturelle qui est pas inintéressante. Donc crème fouettée. Moi, je sucre jamais, en fait.
Donc chantilly, crème fouettée avec du sucre. Crème fouettée, pas forcément de sucre et pas forcément de vanille dans les deux cas.
Voilà, a priori non.
On est plutôt dans cette idée-là. Alors, vous êtes allé un peu vite.
Oui, désolé.
On a des auditeurs et des auditrices qui se plaignent, Pierre Coulon. C'est vrai que c'est difficile à comprendre cette différence entre la crème épaisse, la crème liquide, la crème fleurette. Reprenez votre leçon de choses.
C'est mon métier aussi. Alors, une crème, pour qu'elle devienne épaisse, il faut qu'elle ait été fermentée. Donc, c'est une crème dans laquelle on met des bactéries lactiques qui vont produire un acide et qui vont nous lier les protéines.
On est OK.
Si jamais j'utilise du lait cru, c'est une crème crue. Si je le fais avec une base pasteurisée, c'est une crème fraîche épaisse.
Parfait.
Si je veux pas avoir l'épaississement, je dois tuer les bactéries. Donc, pour tuer les bactéries, je vais stériliser ou alors je vais pasteuriser.
Donc la pasteurisation ou la stérilisation va de fait changer la consistance de la crème.
Comme on tue les bactéries, il n'y a plus d'acidification possible.
Et la crème se liquéfie.
Du coup, la crème reste liquide. Si jamais je la pasteurise, donc que je suis entre 72 et 99 degrés, j'obtiens une crème fleurette qui se garde une dizaine de jours au frigo. C'est un peu l'équivalent du lait frais. Finalement, si je stérilise et que je mets en brique, en UHT, ultra haute température, j'obtiens une crème liquide qui, elle, se conserve en petite brique et puis peut se conserver longtemps, mais doit être consommée rapidement après l'ouverture.
Et des auditeurs et des auditrices nous font remarquer que crème fleurette est une marque déposée, vrai ou faux?
Non, pas à ma connaissance.
C'est un nom générique.
Dans les marques,
une technique.
Oui, dans les marques principales, c'est pas le mot qui va être utilisé derrière les Brie Delice, les Yoplait, les trucs comme ça qu'on trouve des géants laitiers.
Au niveau des signes officiels de qualité pour reconnaître des crèmes qualitatives,
c'est compliqué. On en a trois, donc c'est-à-dire qu'on aura la crème d'Isigny sur la Normandie.
On parle d'une appellation d'origine protégée.
Qui est AOP. Une deuxième AOP qui sera la crème de Bresse. Et on a une IGP, c'est la crème d'Alsace-Lorraine. Le problème, c'est que comme elles pasteurisent toutes, finalement, on n'a pas d'expression du terroir. Même si la matière première est belle, parce que c'est des crèmes qui sont souvent à plus de 35%, donc qui ont un peu plus de matière grasse et qui vont être intéressantes en cuisine. M'empêche que comme à chaque fois, ils rajoutent les mêmes ferments, les mêmes bactéries lactiques, elles auraient le même goût et on pourrait les faire demain en Espagne, en Italie ou en Norvège, ça serait pareil.
Ça, c'est habituant.
Il y a Bruno, un auditeur, qui nous parle de la crème au cœur du pays vert. apparemment une crème d'origine corésienne qu'il utiliserait. Voilà,
ça, alors, il y a beaucoup de producteurs de crème un peu
Périgord
partout.
Périgord vert, peut-être
Non, alors celle-là en particulier, je ne la connais pas, mais il y a des petits producteurs de crème, il y en a partout en France. Hein.
On va se renseigner. Vous aviez une question, Antoine Gerbel ?
Oui, est-ce que, en fin de compte, le plus important, c'est pas ce que mange la vache quand on achète sa crème ?
On est assez d'accord.
Et surtout ce qu'on encourage, c'est-à-dire que Marine et Aldric, même s'ils pasteurisent une partie, parce qu'ils vendent aussi en grande distribution, et que la grande distribution veut des dates plus longues, la crème fraîche pasteurisée a plus de temps dans les rayons. Ça reste un système ultra intéressant, qui a un impact génial. 50 vaches, on est sur une petite structure qui mange que de l'herbe. Bon, bah là, on encourage quelque chose de plus intéressant quand on fait appel à Bridelli, Sioplay et compagnie.
Et rappelons la définition de fermier ou fermière, qui concerne la crème ou les fromages d'ailleurs, une crème fermière.
C'est fabriqué à la ferme avec le lait du troupeau uniquement, il n'y a pas d'achat de lait à l'extérieur.
Tout simplement. De crème à crémer, il n'y a qu'un thé.
Exactement.
Parce que vous êtes quand même d'origine nantaise, faut-il le rappeler, Pierre Coulon. Sauf que, attention, crémer, c'est une recette un peu oubliée de notre patrimoine laitier. Que se disputent quand même les Nantais et les Angevins.
Oui, clairement. Alors, il est un peu différent, le crémé nantais du crémé angevin. Moi, j'ai tranché en assumant mon côté nantais avec la recette de ma tante Annie qui m'avait fait découvrir ce crémé. Alors, la base, elle reste la même et c'est cité depuis le début du XXe siècle, hein, finalement. Donc, c'est comme une base de Fontainebleau, mais qui va être enrichie au blanc d'œuf. Donc, la version nantaise, c'est simplement de battre 300 grammes de crème avec 300 grammes de fromage blanc. Et d'y ajouter 80 grammes de sucre et après de rajouter 3 blancs d'œufs battus en neige.
On fait passer les cuillères, grand écart.
À Angers, il verse dans des petits moules et il les égoutte. Et moi, à Nantes, ben oui, c'est top ça.
C'est un nuage, quoi.
Ça, c'est un câlin.
C'est un nuage.
C'est vraiment un câlin gourmand.
Il y a un peu de sucre. On a moins d'acidité que sur le Fontainebleau. Alors là, ça s'appelle les fruits, hein, clairement.
Parce qu'alors, différence entre crémé et Fontainebleau, là, on a effectivement du
blanc d'œuf en plus et le sucre.
Parce que le Fontainebleau, c'est uniquement des produits laitiers.
Voilà, c'est un mélange de chantilly et de fromage blanc.
C'est
bon ça. Là, on noie un peu l'acidité qu'on a dans le Fontainebleau, et puis la petite touche de sucre, en fait, a fait du bien.
Antoine Gerbel, il en pense quoi ?
C'est horrible. Je suis dans le pot, c'est terrible.
C'est ça le problème, on est obligé d'aller tout
c'est
au bout
bon
du pot.
Ce
c'est absolument délicieux. Et bonne nouvelle, Pierre Coulon, c'est pas si compliqué à faire à la maison.
Ah non, c'est simple, hein. Il suffit juste de savoir battre de la crème et des œufs.
Vous nous avez pas apporté quelques belles garriguettes, quelques belles fraises maras des bois?
Désolé,
pour
j'ai eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement ce matin en venant à l'émission.
Ce crémé nantais, oui, on va le voir un peu plus tard. En tout cas, on se régale avec ce crémé nantais dont la recette figure sur franceinter.fr à la page. On va déguster. Je garantis à ce crémé nantais que l'on ressuscite en quelque sorte un beau succès auprès de nos auditeurs et nos auditrices. Alors, on va passer bientôt à la crème, oulala, dans sa version industrielle. C'est ce qu'on va découvrir avec vous, Pierre Coulon. Vous allez même nous promener dans le rayon frais des supermarchés et on va voir, sans démagogie excessive, que ça peut virer au grand n'importe quoi. Vous êtes bien sur France Inter.
Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora torço eu. Pobre de quem entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acaba. Thank you.
nouveau Bebel Gilberto et Preciso Perdoar pour une sensation brésilienne. Notre menu du jour, la crème.
On va déguster sur France Inter.
On vous rappelait, alors non pas vos vacances, Pierre Coulon, parce que vous êtes allé récemment au Brésil. On vous a vu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes assez actif sur Instagram. C'est quoi votre compte ?
Alors, la laiterie de Paris ou Pierre Coulon.
Voilà, tout simplement. On a vu que vous étiez au Brésil, pas tellement pour vous dorer la pilule, mais pour pratiquer votre métier de formateur en fromage et produits laitiers. Et justement, tiens, ce crémé nantais, vous l'avez fait goûter.
On a même fait l'inauguration de Taste Brasilia avec ma collègue Déborah Pereira de l'association Certa Obras avec qui on organise les formations. Mm-hmm. Et donc, on a fait ça en live devant plein de gens. Alors, version avec de la ricotta, parce que le fromage blanc n'existe pas.
On peut faire
un crémé
nantais avec de la ricotta.
Ouais, et ça marche très très bien. Il y a un peu plus, la texture un peu moins mousseuse, mais c'est super bon aussi.
Ils ont apprécié ?
Ouais. C'était assez drôle de faire ça à Brasilia.
Avec de la ricotta locale ?
Ouais, avec de la ricotta locale d'une ferme bio. Il y a plein de chouettes fermes au Brésil.
Bon, on va passer au sujet qui fâche, puisque on évoque la crème fraîche au supermarché. Alors évidemment, quand on débarque dans une grande surface, c'est plusieurs mètres linéaires de crème et de produits laitiers, un très vaste choix. Rappelons, et c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, Pierre Coulon, que l'essentiel des ventes de crème se fait au supermarché. 1% seulement de la crème que l'on achète, ça se passe à la ferme ou chez les crémiers fromagers.
Oui, comme toujours, la grande distribution, effectivement, a un peu le monopole des ventes des produits en France.
On peut considérer que c'est un produit de prix très bon marché, toutefois. Les prix de la crème et de la crème fraîche ont augmenté en raison notamment du prix de l'énergie.
Oui, alors ça c'est une bonne nouvelle contre la pasteurisation, c'est que pour chauffer il faut énormément de fuel et comme le fuel s'envole, ça commence à coûter plus cher aux industriels et la crème, on peut pas non plus la microfiltrer. Comme les globules gras sont trop gros, ça boucherait les filtres. Donc du coup, elle a quand même doublé en l'espace d'un an par rapport à ce que j'avais regardé dans les grandes surfaces. Ça reste un produit bon marché qui va commencer à 5 € le kilo et monter à 10 € sur les crèmes d'appellation.
Mais autre argument en faveur de la crème crue, c'est aussi les économies d'énergie que l'on fait en la consommant.
Clairement. Alors après, en grande distribution, on retrouve comme à chaque fois nos différents géants laitiers avec leurs différentes marques. On aura Savencia, qui aura Elevir, on aura Président et Bridellis pour Lactalis, et puis Yoplait pour la coopérative Sodiaal. Donc ils se partagent tout ça. Et ce qui n'est pas étiqueté à leur nom, finalement, se retrouve être produit par eux-mêmes sous les marques de distributeurs ou les marques discount. Ce qui est compliqué, c'est la liste des ingrédients. C'est que une crème, normalement, les ingrédients, c'est crème et ferment. Pour une crème épaisse, et sinon juste crème. Et on voit que se multiplient quand même les lignes avec les carragénanes, avec les amidons, notamment pour avoir des meilleurs foisonnements.
Là, vous évoquez des agents de texture, des stabilisants.
Oui, et qu'on retrouve dans les plats pour cuisiner beaucoup de poulet à la crème ces derniers temps. On les voit coaguler en surface, c'est même pas intéressant, c'est pas très joli. Et la palme, là, revient à Lactalis qu'elle nous sort. Donc une crème liquide. Secret de crème avec une communication assez drôle.
Secret de crème. Et la recette est très secrète, on va le voir, même s'il faut évidemment des yeux et des bonnes lunettes pour regarder et décrypter l'étiquette.
Alors moi je me baladais, je vois secret de crème, goût véritable de crème fraîche. Alors
c'est la marque Président.
Ouais, c'est la marque Président. Et en fait derrière, c'est une crème, on est d'accord, origine France, du stabilisant, de l'émulsifiant, de l'amidon et de l'acide lactique.
De l'amidon dans la crème.
Mais oui.
Et de l'amidon de la fécule de pomme de terre ou l'amidon de...
C'est pas cher, ça permet aussi d'améliorer les textures. Donc là, c'est le level zéro de la cuisine. C'est-à-dire qu'on fait une crème qui a goût de crème épaisse mais qui est liquide. Alors que ce qu'on apprend en cuisine, c'est que on utilise une crème comme une autre suivant le fait qu'on veut y ramener de l'acidité ou pas.
Mais vous évoquez, attention, un produit qui est en plus positionné dans les rayons en haut de gamme.
Oui, voilà, en haut de gamme. Donc de la crème touillée avec de l'acide lactique. Une cuillère à soupe de farine, de la carragénane qui permet de faire des belles chantilly, et on appelle ça le goût véritable de crème fraîche. Bon, après c'est de la com, comme d'habitude, mais ça marche, parce qu'ils étaient en rupture, j'en ai pas trouvé ce matin.
Oui, on voulait en faire goûter à Zazie, qui était très impatiente de déguster ce produit, elle qui revenait de la ferme Brin d'Herbe, on l'aurait fait descendre sur terre, et on l'a pas trouvé, parce qu'effectivement elle est en rupture de stock. Non mais c'est incroyable.
Ouais, après ça reste des produits dans lesquels on rajoute encore trop d'ingrédients. Il y a des offres qui sont louables. Alors c'est pas
J'allais vous demander. Oui. Quelle crème on choisit quand on va au supermarché ?
On choisit. Là, je suis devant une crème. Alors c'est Elevir, mais on voit crème de Normandie ferment lactique.
Elle est bien faite.
Alors elle est bien faite. Après, est-ce qu'elle est bien faite par les bonnes personnes ? Ça restera toujours le débat. Quel impact il y a quand on consomme ce genre de produit ? Ça, c'est une autre question.
Qu'en est-il du segment bio ?
Très peu. De toute façon, aujourd'hui, on le voit, le bio, le fermier, le lait cru, toute la qualité se casse totalement la figure, ce qui met les systèmes en difficulté. Bon, on fait le dos rond, pour l'instant, on attend que ça passe. Mais crème bio, deux, trois références face à une trentaine d'autres références, c'est pas ce qui est le plus vendu.
En l'occurrence, chez vous, c'est crème brin d'herbe.
Bio et cru.
Et cru.
Voilà.
Voilà. C'est la seule que vous proposez à vos clients?
Bah, on cède pas, parce que si on vendait une crème pasteurisée, ce serait la même qu'à Franprix, donc il n'y a pas d'intérêt. Après, c'est un produit qui est plus cher, hein, qui frise les 14 euros le kilo dans les boutiques, dans les crèmeries. Mais encore une fois, il y a ce qu'on encourage derrière. Un achat, ça reste toujours militant.
Et puis, encore une fois, la crème, on n'est pas obligé non plus d'en consommer un litre par jour.
Non.
Ça reste une petite cuillère de temps en temps pour assouplir une recette.
Ça se dilue très, très bien.
En utilisant une bonne crème fraîche ou une bonne crème crue.
Et d'ailleurs, il travaille dans la restauration collective, brin d'herbe, et oui. Il disait que les chefs de la restauration collective étaient contents parce qu'ils pouvaient utiliser moins de crème vu la qualité de la crème.
Comme c'est des crèmes qui sont plus grasses, elles supportent une dilution. Là, il y a les concombres qui se pointent. Moi, une cuillère à soupe de crème fraîche et 2-3 cuillères à soupe d'eau, on fait des salades hyper nappantes parce que c'est des crèmes qui ont plus de texture, effectivement.
Et là, on n'est pas loin du tzatziki si on ajoute quelques feuilles de menthe.
Exactement.
Même si on peut mettre aussi, évidemment, du yaourt, de la crème crue, un cru du Beaujolais, il n'y a qu'un pas que franchit notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Oui, il n'y a pas l'allitération, effectivement, fleurette, fleurie.
Et ben voilà, on l'avait,
cru,
qui l'avait entre
cru
nous.
Cru et cru.
Fleurette, fleurie.
J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une montée en puissance et d'une montée en qualité. C'est vrai qu'on crie après des fois l'industrialisation de nos secteurs, que ce soit secteur agricole ou viticole, mais aussi il faut rappeler qu'il y a des gens qui se battent pour monter en puissance. Et dans le Beaujolais, vous connaissez tous, on va dire, la croix que porte le Beaujolais, ce fameux Beaujolais village, mais on va dire pour une génération un peu la nôtre, qui ont connu vraiment tout le dévoiement qui a été ce Beaujolais semi-industriel. Aujourd'hui, il y a une jeune génération pour qui ça ne doit plus dire grand-chose. Déjà, ça n'existe plus vraiment en volume, parce que ça a atteint des volumes à une époque dans les années 80-90 colossales. Et cette nouvelle génération, elle découvre quoi? Elle découvre dans le Beaujolais ce fameux Gamay, ce cépage très particulier qui est, moi je dis souvent, c'est peut-être le plus blanc de tous les cépages rouges, c'est-à-dire qu'il y a une aromatique très intéressante, très peu de tanin. Ça, on va dire, c'est dans la généralité. Et puis après, ce Gamay, bah, quand on le pose parmi les 10 crus, puisqu'il y a les fameux 10 crus, on ne va pas les épeler sinon on va se planter, du Beaujolais, ils prennent des notions très délicates et différentes suivant les terroirs. Et à l'intérieur même de ces crus, eh bien, les vignerons se disent ben, on va travailler aussi sur cette notion de premier cru. Alors premier cru, c'est toujours un peu intimidant. Quand on voit premier cru sur une étiquette, on se dit c'est pas pour moi, c'est cher, j'y connais rien, je ne vais pas comprendre la différence entre un vin de village et un vin de premier cru. Eh bien justement, là je vous conseille d'accompagner ce cru fleuri comme les voisins Brouilly et Côte de Brouilly depuis 2019, en 2023, Fleury a décidé de découper, de commencer en plutôt un découpage de cru et après aller vers l'INAO, donc l'Institut National des Appellations d'Origine, en disant voilà, nous on a travaillé, on vous dit que ce terroir-là, il a plutôt ce goût-là, il a plutôt cette expression-là. Et alors ils ont identifié 7 lieux-dits, je vais vous les nommer, ça s'appelle les Moriers, Poncier, Garant, La Madone, Roilette, Gris Midi et la Chapelle des Bois. Alors pour les,
c'est un peu comme des climats en fait.
C'est exactement les climats. Alors on n'utilise pas le mot climat parce que les Bourguignons, bien évidemment, ont capté le mot et c'est difficile. Mais on est exactement dans un lieu dit qui correspond bien évidemment à une nature de terroir, à une exposition et à un travail historique de ce Gamay sur un terroir très particulier parce que ça n'a rien à voir avec la Bourgogne, puisqu'on est sur des granites. Le granit, c'est cette décomposition de roches très particulière qui donne des vins à un support acide très important quand même à ce Gamay. Alors voilà, il faut s'intéresser aux fleuris. J'ai fait une grande dégustation à travers ces nuances de lieux-dits. J'ai goûté 80 vins, donc c'était passionnant de voir quand c'était juste ou pas juste, et c'est pas toujours juste, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'homme décide que son terroir porte un nom qu'il a forcément un goût particulier, hein. Moi, je mets des nuances dans tout ça, il faut que les hommes travaillent. Il y a autre chose, c'est que Fleury, c'est un territoire très pentu, c'est-à-dire qu'on est il y a 840 hectares à peu près, et on a entre 225 et 475 mètres, il y a beaucoup de dénivelés, et ces dénivelés aujourd'hui, ils sont totalement sous glyphosate, à 80%.
Aïe.
Donc, quand on fait une démarche de premier cru, je dis bravo, travaillez, mais aussi, il va falloir travailler aussi sur ce qui n'est pas facile. Hein. Je connais pas mal de vignerons, je citerai un vigneron qui s'appelle Guillaume Chenudet, qui s'est mis au bio. Ces vignes, ce sont des jardins, mais il passe sa vie sur son petit chenillard ou sur des pentes raides comme un montagnard, aller à la pioche, tout ça pour faire du Gamay.
Et pour désherber, donc mécaniquement, parce qu'on rappelle que le glyphosate, Bah, c'est la solution de facilité chimique pour désherber, notamment dans des zones peu accessibles.
Hein. Voilà, et qu'on voit pas en ce moment, parce que ça y est, l'herbe, on va dire la belle herbe, mais l'herbe avant l'hiver, quand vous passez sur les crues du Beaujolais, malheureusement, c'est encore un peu un désert. Il va falloir travailler. Alors, je rappelle que c'est pas si simple, il suffit pas de dire, le petit parisien dire arrêtez de mettre du glyphosate, il faut savoir qu'il faut valoriser les produits, et c'est pour ça que j'insiste sur cette émergence de premiers crus, parce qu'ils vont quand même valoriser. Alors, je vous ai amené des vins, je suis toujours un peu dans la contradiction, parce que je les aime, parce qu'ils sont pas trop chers, et donc j'aime bien aussi pousser ces crus du Beaujolais, parce que on est à moins de 20 euros, et on a des vins vraiment très très bien signés.
Ah là là, d'une belle souplesse, très gourmand.
De cette grande dégustation, je vous ai amené deux vins, alors opposés. Déjà, le premier, on va peut-être commencer par l'inverse, le plus vieux, je vous ai amené un 2016, qui est toujours en vente, donc vous allez repérer tout de suite sa robe, elle est un tout petit peu vermillon. C'est sur un lieu dit les Mauriers. Mmh. C'est le château des Mauriers. C'est un 2016, donc voilà, on a un vin qui a déjà 9 ans, donc qui bascule dans ses notes un petit peu tertiaires, et ça coûte que 18 euros à la propriété.
Et c'est bon, voilà.
Mmh. Alors, c'est un petit peu automnal, on n'est peut-être pas tout à fait dans le raccord avec la crème, et pour le raccord avec la crème, je vous ai amené une autre cuvée, donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus sombre, c'est un 2020, ça s'appelle la Vigne des Fous, sur le terroir de la Madone, et c'est Marc Delienne qui fait ça, et là, ça vous raconte aussi cette puissance qu'il y a derrière, et c'est vraiment cette légitimité qu'il y a à avoir des premiers crus. Sur le site, il y a une dégustation, donc je vous ai mis mes 10 coups de cœur des vins 2021, donc c'est le dernier millésime qui est en train d'être commercialisé.
Et il y a également une dizaine d'interviews sur le Fleury, vous avez vraiment exploré cette appellation à fond, dans votre web TV Tellement
sur
Soif.
L'excellent web TV Tellement Soif, qui fête ses 5 ans, effectivement, et on était à la rencontre de tous ces vignerons qui nous racontent justement en détail ces nuances et d'une manière très ouverte, très libre, sans cacher aussi la réalité de cette volonté de monter en puissance.
On vous a mis le lien sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous avez aussi une manifestation à nous recommander, Antoine.
Voilà, parce que le Beaujolais, c'est beau. Mm-hmm. Je sais qu'il y a cette image qu'on utilise, qu'on use trop de parler de cette Toscane française, mais le Beaujolais, c'est des monts magnifiques. Et en ce moment, très bientôt, du 16 au 18 juin, il y a la Beaujonomie. C'est simple, c'est le rapprochement de du Beaujolais et de la gastronomie. Et c'est dans les vignobles, il y a, le troisième week-end de juin, donc, des domaines viticoles qui accueillent des chefs. Et vous pouvez vous inscrire, ça coûte entre les repas, c'est entre, je crois, 30 et 100 euros, parce qu'il y a même des chefs étoilés. Et ils débarquent, soit au milieu des vignes, soit dans les caves, et ils improvisent un repas avec les vins des domaines. C'est très sympathique et il y a une ambiance extraordinaire. La Beaujonomie du 11 au 16 juin et tout est sur le site de l'émission.
Merci Antoine Gerbel et vive le Fleury. Allez, une autre recette. On est encore dans le chapitre sucré mais on part du côté de l'Alsace avec Pierre Coulon. On quitte le Crémé nantais pour le Ciscas, sans garantie de prononciation.
Alors, on a un doute. Hein. Alors, on a fait un truc, je pense, c'est la première fois qu'on fait du fromage dans le studio.
Non mais incroyable.
Oui.
Il est arrivé vers 10h30, Pierre.
Avec du lait qui a fermenté sur mon Vélib quand je suis venu, enroulé dans un pull. Alors c'est tout simple à faire. Hein. On prend un litre de lait, on met une cuillère à soupe de yaourt, on chauffe à 37 degrés et on va le faire cailler 45 minutes, le couper en gros morceaux.
Alors on le fait cailler, on prend de la présure qu'on achète à la pharmacie.
Ouais, à la pharmacie, on en met les doses qui sont indiquées dessus. Mm-hmm. Et au bout de 45 minutes, quand c'est devenu solide, on coupe et on va attendre un petit peu, 5 minutes, avant de brasser. Donc on va vraiment avoir une séparation du petit lait et du fromage.
On est vraiment dans l'embryon du Munster, par exemple.
Oui, du Munster ou du Reblochon. Hein. Si on l'avait un peu égoutté, ça aurait fait exactement...
Et oui, il n'est pas lavé encore.
Ça aurait fait ce qu'on appelle une tome blanche. Là, je vous le sers juste caillé avec de la crème, du sucre de canne. Et alors, normalement, c'est avec du kirsch.
Oui, que s'est-il passé?
J'ai explosé donc la bouteille de kirsch ce matin avant de venir.
Non, vous l'avez fini au petit déjeuner, c'est ça?
Non. Ça a mobilisé beaucoup de monde, cette histoire de kirsch. Jazzy a essayé d'en trouver en urgence. Mais
Fabrice Rivaud a ouvert tout la carte de l'émission et on a remplacé par du gin ou de la fleur d'oranger.
Eh ben, on a remplacé par du gin et ça marche bien. En fait, au début, je voulais mettre du gin, mais je voulais mettre de la fleur d'oranger pour pas être spécialement dans l'alcool. Mais alcool plus sucre plus ce soyeau du caillé, ça marche super bien. Donc c'est, je sais pas, un très très bon gin.
Oui. C'est un gin que nous a envoyé gouttes, hein. Nos auditeurs, un gin artisanal dont on n'a pas retrouvé vraiment l'origine.
Alors ça nous a sauvé la recette. En tout cas, je remercie l'auditeur.
Bravo.
L'étiquette est assez simple. L'étiquette du gin.
C'est vraiment le dessert laitier des paysans des Vosges. Hein.
Voilà, qu'on va manger après le gratin marquaire. Donc ce gratin composé d'un tiers de beurre, de Munster, de pommes de terre, cuit dans du vin blanc. Donc pour finir en légèreté. Mais souvent en montagne, on finit avec des desserts à la crème, hein, comme
les Suisses et la double crème avec leur meringue, par exemple.
C'est tout à fait intéressant. Il y a du monde qui se bouscule sur les réseaux sociaux de l'émission, Zazie Tavitian.
Oui, et d'ailleurs, il y a des Suisses, il y en a plusieurs, dont Annie qui demande pourquoi la crème épaisse française est acide, alors que la double crème de la gruyère en Suisse est très douce.
On allait y venir, parce que c'est vrai que la crème fraîche et la crème française en général a des cousins et des cousines. En Suisse, c'est la double crème.
Alors, en Suisse, c'est la double crème. Historiquement, on récupérait la crème qui remontait le soir après la traite et on l'égouttait. Donc, c'est pas une crème qui était spécialement fermentée. Comme on la mangeait très très vite, elle n'avait pas le temps d'acidifier. C'est ce qui se mange naturellement avec les meringues. En fait, en France, on a une particularité, c'est que pour qu'une crème devienne épaisse, il faut de l'acidité. Pour avoir de l'acidité, il y a deux manières. Soit des bactéries qui nous font cette acidité en mangeant de lactose, soit de mettre un acidifiant comme un citrique ou comme un acide lactique. Ce qui se passe beaucoup à l'étranger. Quand vous allez en Italie et que vous mangez de la panna, elle est épaisse, mais elle a un goût de crème douce parce qu'elle n'est pas fermentée. Ils ont rajouté un acidifiant.
Très bien.
Donc, en fait, toutes les crèmes étrangères, moi, quand j'ai des clients qui viennent en boutique, me demander des sour cream, me demander tout ça, je les guide vers la crème fraîche ou vers la crème crue épaisse, et en fait ça se passe super bien parce qu'il y a une note aromatique un peu supérieure quand même.
Ce qu'on appelle triple crème, alors là c'est carrément, on bascule du côté fromage chez le Brillat Savarin par exemple. Hein.
On peut utiliser la crème dans la fabrication de fromage, alors c'est vrai que la plupart du temps on en enlève un peu, mais il y a des fabrications où on en rajoute, comme le Brillat Savarin, comme le Saint-Félicien, on va rajouter de la crème liquide, de la crème fleurette, dans le lait pour avoir un fromage plus concentré en matière grasse. Ça fait des textures très très fondantes.
Vous évoquiez la panna italiana, mais le mascarpone, définition.
Le mascarpone, c'est une crème citrique, donc on va rajouter de l'acide citrique. Alors attention, acide citrique, c'est pas du citron, hein, ça peut être fait de plein de manières. Ça va devenir solide, on va égoutter. Donc c'est une crème qui est un peu plus riche, elle frise les 55-60% de matière grasse. Et c'est la base du tiramisu.
On évoque aussi le cottage cream.
Alors cottage cream, là,
des auditeurs.
Là, je me fais un poil plus piégé. C'est
crème acidifiée, égouttée.
Oui, ce serait le même principe. Mais souvent, une crème qui va être acidifiée, encore une fois, avec un acidifiant, plutôt qu'avec le travail de fermentation, comme celui qui fait la laiterie Blindère.
C'est bien compris. Zazie ?
On a aussi Françoise qui nous parle d'une crème de brebis, parce que là, on parle de crème de vache qui est fabriquée dans le Larzac.
Ah ouais,
alors,
on peut
croiser, parce que le lait de brebis est plutôt riche. Ça sera sur le chef que ça sera plus compliqué, parce que le lait est plutôt pauvre, mais on croise aussi un peu de crème de lait de brebis.
Merci beaucoup, Pierre Coulon. Merci, Zazie. Merci, Antoine Gerbel. Le bon savoir du fromage de Pierre Coulon aux éditions First Edition. C'est vraiment un livre référence pour plonger dans le monde du fromage et des produits laitiers. La semaine prochaine, attention, à quoi ressemblera le vin du futur? On répond à cette question avec Dominique Hutin, Manon Fleury et nos invités. Bonne fête aussi à toutes les mamans, à commencer par les nôtres, hein.
Oui.
Et à dimanche. Et à dimanche prochain. Si vous avez encore faim, à bientôt, Pierre.
À bientôt.